Entretien avec notre évêque.
C'est aujourd'hui le vicaire général Luc Meyer que nous retrouvons pour cet entretien. Bonjour mon père.
Bonjour Isabelle, bonjour chers auditeurs.
Alors en effet, notre évêque, Mgr Scherrer, est comme s'il était à Lourdes.
Notre évêque, il est en visioconférence, mais je pense en effet que tout son cœur et puis toute son intelligence est en communion avec les autres évêques et puis aussi avec un certain nombre de laïcs qui sont venus pour parler, vous le savez, de Laudato si.
Donc, l'évêque vous a délégué cet entretien d'aujourd'hui. Et alors, on avait un petit peu envie de sortir de l'actualité, en fait, qui est un petit peu morose, mais en même temps d'y rester un peu. Et vous m'avez proposé un texte qui est celui de la tempête apaisée qui pourrait complètement s'adapter à ce que nous vivons.
Oui, alors je trouve en effet que ce texte de la tempête apaisée nous donne l'occasion de nous laisser embarquer avec Jésus. Et puis peut-être qu'il décrit aussi une expérience fondatrice des disciples, expérience de confiance, expérience de mission. C'est au chapitre 8 de son évangile. Un jour, Jésus monta en barque avec ses disciples et il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Et ils prirent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une tempête s'abattit sur le lac. Ils étaient submergés et en grand péril. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous sommes perdus !» Et lui, réveillé, interpella avec vivacité le vent et le déferlement des flots. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors Jésus leur dit « Où donc est votre foi ?» Remplis de crainte, ils furent saisis d'étonnement et se disaient entre eux « Qui est-il donc ? Car il commande même au vent et aux flots. » Et ceux-ci lui obéissent.
Alors, c'est un texte magnifique. Peut-être qu'on a besoin d'éclaircissement pour savoir comment appliquer, comment mettre en œuvre cet évangile aujourd'hui, dans le contexte actuel, et puis peut-être les jours suivants aussi.
Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être en tirer quelques repères. Un premier repère, je crois, c'est que être chrétien, suivre Jésus, eh bien, c'est accepter de passer sur l'autre rive. Et par définition, c'est aller dans le pays de l'autre côté du rivage de lac de Tibériade. Être chrétien, c'est faire confiance, une confiance à celui qui nous invite, une confiance aussi à celui ou à ceux qui sont de l'autre côté et que nous ne connaissons pas forcément. Et au cœur de l'invitation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la promesse, c'est le principe, passons sur l'autre rive. Si on commence à s'inquiéter de ce qu'il y a de l'autre côté, sans un a priori de bienveillance, de confiance, eh bien on risque de ne pas consentir à se laisser embarquer pour passer sur l'autre rive. Et puis à l'inverse, si pour nous, passer sur l'autre rive, c'est aller à l'abordage, un peu comme des pirates chevronnés qui sont rompus aux expériences maritimes, ben on fera vite l'expérience que l'abordage, ce n'est pas la meilleure façon d'aborder l'autre.
Ce serait peut-être un manque de délicatesse que l'on vivrait très mal, particulièrement en ce moment, Père Meyer.
C'est vrai qu'en ce moment, il ne faut pas aller à l'abordage. Et puis, malgré les distanciations physiques, malgré tout ce qui fait qu'on a du mal à se réunir, eh bien, moi, je suis heureux de voir que dans notre diocèse, très rapidement, dans ce deuxième confinement, on invente des choses pour être attentifs les uns aux autres. Il y a même des anges gardiens téléphoniques qui, dans les paroisses, eh bien, sont missionnés pour prendre soin d'autres personnes plus isolées.
Ça fait vraiment partie des petites lumières dont on a besoin.
Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un deuxième repère dans ce texte-là qui est assez net, qui est donné, c'est qu'être chrétien, c'est accepter d'aller au large, là où on n'a plus pied. Et par définition, c'est risquer sa vie, c'est un peu voguer sur la mort qui peut nous engloutir. Duc in altum, avance au large. On pourrait penser au groupe de jeunes du centre-ville de Laval. Avance au large. Eh bien, être chrétien, c'est naviguer en équipe, comme des matelots. On n'est pas chrétien tout seul. On a besoin des autres pour franchir les vagues. Et je crois qu'on retrouve ici la notion d'équipe qui est si fréquente dans l'Église. Et moi, personnellement, quand j'entends équipe, je pense souvent équipage, avec les images maritimes que ça peut évoquer. Et c'est vrai que depuis notre baptême, on peut sans doute nommer chacun bien des traversées où nous étions bien contents qu'un autre matelot nous évite de tomber dans l'eau. Alors le temps du confinement, je me dis, soyons matelots les uns avec les autres, les uns pour les autres, et ne nous recroquevillons pas, utilisons tous les moyens à notre disposition.
Parfois, c'est un petit peu compliqué quand on se trouve quand même en pleine tempête, pour reprendre l'expression de cet évangile, comme actuellement. On a quand même besoin de savoir comment se comporter concrètement, même si vous avez un petit peu répondu à cette question première.
Alors ça, c'est, je pense qu'un des grands principes de saint Ignace de Loyola, c'est qu'être chrétien, c'est garder le cap dans la tempête. Et par définition, c'est donc savoir rester fidèle, si j'ose dire, à une orientation, même s'il y a du tangage dans ma vie. On ne peut pas laisser une barque se comporter comme une girouette ballotté à tout vent. Et donc c'est un vrai principe ignatien. Dans les périodes de consolation, on peut prendre des décisions qui orientent notre vie. Par contre, dans les périodes de désolation, eh bien on garde simplement le cap et c'est déjà pas si mal. Alors si pendant l'année, je me lève à 7h et puis je me couche à 22h30, eh bien pendant le temps du confinement, même si j'ai rien à faire, je me lève à 7h, je me couche à 22h30 et je retrouve des repères. Et puis si pour moi, aller vers les autres, c'est une nourriture, eh bien je vais essayer d'inventer des choses et dilater mon cœur. Et donc tenir le cap, ce n'est pas de la lâcheté, au contraire. On sent que peut-être il nous faudra à un moment donné savoir changer de cap, tenir les leçons, tirer un petit peu de tout ce qui s'est passé, des orientations pour l'avenir. Mais pour l'instant, faute de mieux, on garde le même, mais sans se crisper, en disant, on essaye de garder la bonne inclination de notre vie chrétienne et de ne pas sombrer dans un esprit, si j'ose dire, des idées noires ou peut-être un esprit de critique ou un esprit de découragement. On essaye que dans notre dialogue intérieur se dissipent toutes ces mauvaises idées et que garde le vrai cap, le bon cap.
Garder le cap, ce serait résister aux tentations justement de critique, de désespoir.
Sans doute. Mais c'est vrai que je vois un quatrième repère, moi, dans cet évangile, qui est quand même assez étonnant, c'est ce que font les disciples. Ils crient leur peur, ils demandent du secours. Maître, maître, nous sommes perdus. Et je trouve qu'il y a une telle humilité à demander du secours à temps, avant que la barque ait coulé, que je trouve qu'il y a une belle confiance de la part des disciples. Et c'est vrai que dans l'évangile, les disciples vont apprendre à partir en mission et à revenir près de Jésus pour mieux repartir ensuite. Il les envoya deux par deux. Mais un des enseignements, à mon sens, de la tempête apaisée, c'est qu'au milieu de la mer, on peut crier vers Jésus, car Jésus est présent avec nous dans la mission, même s'il semble endormi. Alors je pense à notre synode, je me dis, notre thème de synode, c'est « Tu as du prix à mes yeux ». On a vécu trois belles assemblées synodales, on est à deux doigts de formuler des lois et des décrets. C'est vrai, mais finalement ce temps de confinement, est-ce qu'il ne nous donne pas l'occasion de vivre le thème du synode très sérieusement, en disant « tu as du prix à mes yeux, comment ça se déploie pour nous et comment je sais crier ma peur ou entendre la peur de l'autre ?»
Et quand vous disiez, Père Mier, on peut crier vers Jésus, c'est même... En fait, à la limite, c'est un devoir de chrétien.
Quelque part, c'est un devoir. Un devoir de confiance, un devoir de proximité. Et puis, on voit la suite, Jésus réveillé, interpella avec vivacité le vent et le déferlement des flots. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. D'une certaine façon, le cœur est là, avec nous, le cœur de l'Église, le cœur du Christ, à tous les endroits du corps. Et c'est sans doute pour ça que le Concile Vatican II, quand il parle des prêtres, il peut préciser que les prêtres trouvent leur nourriture dans le ministère lui-même, et les chrétiens dans leur mission elle-même. Alors c'est à nous peut-être en ce moment de savoir inventer une façon de vivre dans les conditions actuelles, au mieux, notre ministère ou notre mission de chrétien.
Et de garder l'espérance, qui est un grand mot que l'on a beaucoup entendu sur notre antenne toute cette semaine. L'espérance est au cœur de cette tempête apaisée.
Je pense que accepter de passer sur l'autre rive, aller au large, garder le cap, savoir crier au secours, tout ça, ça fait partie de l'espérance. Ça pourrait paraître un peu extérieur si les matelots ne jouaient pas leur peau dans cette aventure, mais en fait, ils sont à deux doigts de faire glouglou dans le fond de l'eau. Et donc l'espérance, elle se conjugue avec une façon d'habiter sa vie chrétienne et une façon de se donner soi-même. Je crois qu'il n'y a pas de mission chrétienne, il n'y a pas de ministère sans offrande de nous-mêmes. Et je crois qu'à l'origine de la fécondité de la vie des chrétiens, eh bien, il y a cette paix intérieure et ce don de soi intérieur aux autres.
Cette paix intérieure, on a besoin de travailler pour pouvoir l'acquérir.
Alors, on a besoin de travailler ou peut-être de nous laisser travailler. C'est-à-dire, vous savez, dans l'Eucharistie, on dit que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Ça, c'est après la consécration. Eh bien, d'une certaine façon, nous modelons notre offrande de nous-mêmes et comme Église sur l'offrande du Fils. Et donc, être chrétien, c'est d'une certaine façon se laisser christianiser par le Christ lui-même qui est vivant en nous. Et donc, ce n'est pas simplement faire des choses pour Dieu ou faire du violon pour Dieu, c'est laisser Dieu faire des choses en nous. Et c'est devenir, dans la symphonie du monde et de l'Église, des violons de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, avec nous, à travers nous, joue sa propre partition.
Merci beaucoup, Père Meyer, pour cet entretien riche de sens. On voit qu'une fois de plus, l'Évangile est complètement actuel parce que tout ce qui a été écrit est valable pour nous aujourd'hui, vraiment dans cette période un petit peu troublée, pour utiliser un petit euphémisme. Donc, un grand merci d'avoir remplacé, si je puis dire, Mgr Scherrer, qui était donc avec ses collègues évêques en ce moment en visioconférence, à défaut d'être en présentiel, mais que l'on retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon père.
Au revoir et à bientôt.